Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Qui n'a jamais été saisi, voire emporté par la foule lors d'un concert ou lors d'un match de foot? Qui n'a jamais eu l'impression de ne faire qu'un avec plus grand que lui? Plus on est fou, plus on rit, dit une expression datant, je crois, du XVIIIe siècle. Le groupe, le collectif nous donne de la force, nous emmène plus loin. Et pourtant, quand nous regardons notre société actuelle, l'individualisme n'a jamais eu autant la part belle. La foule rend-elle l'individu plus fort ou est-ce la singularité de l'individu qui rend la foule plus forte? C'est cette question qu'aborde mon invité dans son 32e roman, 30 ans après son premier opus, Les Fourmis, quelques mois après son autobiographie fondée sur les 22 arcanes majeures du tarot, il met en lumière une autre de ses passions, le jeu d'échecs. Dans ce nouveau roman, La Diagonale des Reines, chez Albin Michel, il fait du monde un immense échiquier, voyant l'affrontement violent entre deux femmes que tout oppose. Un roman à la croisée de l'anthropologie, de la socio, de la psychologie, de la géopolitique mondiale. Avec lui, posons-nous cette question. Quel pion jouons-nous sur l'échiquier de la vie? J'accueille évidemment, vous l'aurez reconnu, Bernard Werber dans Métamorphose. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Ça va?
Oh, toujours un plaisir de vous retrouver, ouais. De te retrouver.
Ouais, on a dit, voilà, on fait comme dans la vraie vie.
Je me suis habitué.
Tu nous fais un petit pitch de la trame de ce dernier opus avec ces deux héroïnes dont les prénoms Nicole et Monica seules déjà portent même dans leurs prénoms les thèmes du roman.
Je trouve que tu le fais mieux que moi. Nous, on est trop près, on est trop près de notre œuvre.
Nicole, ça veut dire quoi et Monica,
alors,
voilà, tiens, peut-être.
Alors voilà, en effet, le pitch, je peux déjà dire que le fait qu'elles s'appellent Nicole et Monica, c'est pas un hasard. Nicole, ça vient de Nike, ce qui a donné les chaussures Nike, et ce qui a donné le prénom Nicolas. Et Nicole, ça signifie la victoire du peuple. Donc Nicole porte déjà dans son prénom une stratégie de vie qui est misée sur le peuple, misée sur le groupe, misée sur le collectif. Mmh. Voilà, peut-être quand vous regarderez vos chaussures qui portent le mot Nike. Nike, c'est la déesse donc de la victoire. Mmh. Et Ol, Olé, ça veut dire le peuple. Et Monica, en fait, comme monokinie, monothéiste ou monoculture, ça signifie seul. Donc, le prénom Monica porte déjà en soi la stratégie de « je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne et je suis autonome ». Voilà, donc ces deux visions deux manières de se comporter avec ses congénères. Soit on a envie tout le temps qu'ils soient nombreux autour de vous, soit vous avez envie qu'ils soient à distance et vous avez envie d'être sur une île déserte ou un donjon.
Alors ce livre, c'est cette histoire, je le disais en intro, hein, de deux femmes que, en apparence peut-être tout oppose comme ça, et qui vont s'affronter aussi aux échecs. Ce sont des grandes joueuses d'échecs. Et sur une trame, effectivement, où la planète et le monde deviennent cet échiquier mondial. Alors quel a été le déclencheur de l'écriture de ce roman? Tu dis que c'est le récit d'un ami qui t'a conduit là.
Oui, c'est un ami suisse qui s'appelle Gilles Meilland, et qui a pour particularité de ne pas avoir de bras ni de jambes, ce qui me semble une manière d'arriver dans le monde avec beaucoup de handicap. Et c'était un de mes élèves dans ma première masterclass, et j'étais surpris qu'en n'ayant pas de bras et pas de jambes, il n'en soit pas pour autant handicapé, puisque c'était lui qui proposait le plus d'idées, et il tapait ses textes à toute vitesse avec ses moignons. Alors je fais le geste devant le micro, oui. On ne se rend pas compte, mais en gros il a des demi-bras terminés par des petites aspérités qui lui servent un peu comme des doigts, mais il arrive à taper très vite sur un clavier de téléphone. Et c'était lui qui était tout le temps de bonne humeur, tout le temps lançait des bonnes idées. Donc j'ai fini par lui proposer de venir chaque fois que je fais une masterclass, je vais lui dire j'ai envie que tu sois là parce que tu dynamises le groupe. Puis après, on est devenus amis. Un jour, il me dit, je lui dis comment ça va? Il me dit ça va pas parce que j'ai fait une dépression suite à un moment de panique. C'était à Paris, il se retrouvait à Paris. Il était dans sa chaise roulante et il y a eu un mouvement de foule par rapport à une grève, une manif. Et il s'est dit, je me suis vu renverser et piétiner. Et au moment où il me l'a dit, je me suis dit, putain. Quand tu n'as pas de bras, pas de jambes, et que tu es au milieu d'une foule qui est en train de bouger à toute vitesse, et que tu risques de te faire piétiner, c'est quand même la situation la plus terrible qui puisse arriver dans un monde, soi-disant, où tout est en sécurité. Et ça m'a tellement perturbé que j'ai voulu écrire une histoire de quelqu'un qui a peur des foules et qui fuit les groupes. Et vu que naturellement je suis plutôt quelqu'un de solitaire, en fait je suis bizarre, je suis solitaire qui aime bien être entouré des gens. Donc je vais dans les cafés où il y a plein de gens, et là j'aime bien être dans ma petite bulle avec mon casque en train d'écrire mon livre tranquillement. Et je me suis dit, j'ai un problème, je ne sais pas si j'aime être seul, si j'aime être avec les autres. Quand je suis seul, j'ai envie d'être avec les autres, quand je suis avec les autres, j'ai envie d'être seul. Et j'ai inventé cette histoire de ces deux femmes qui ont les deux visions de la vie idéale, l'une avec le groupe et l'autre avec la solitude. Et j'ai imaginé que ça prenait de plus en plus d'importance, puisqu'en effet, elles combattent tout d'abord dans des jeux d'échecs alors qu'elles sont toutes jeunes, adolescentes. Et puis après, elles vont terminer par se combattre à travers les services secrets.
Au niveau mondial, oui, c'est ça. Quand est-ce que tu as commencé à jouer aux échecs, toi?
À 6 ans. En fait, mon père apprenait à ma sœur, qui a 3 ans de plus, à jouer aux échecs. Et ma sœur n'était pas très intéressée. Et je me suis mis derrière son épaule, j'ai écouté les règles, le mouvement des pièces. Et puis après, j'ai dit à mon père, moi j'aimerais bien que tu m'apprennes. Le fait qu'on ne me l'ait pas proposé a créé un appétit.
Oui.
Et ensuite, c'est devenu un mode de dialogue avec mon père. On se retrouvait tous les deux pour jouer. Mon père travaillait beaucoup, il était pas toujours dispo, mais je savais que quand il y avait une partie d'échecs, là j'allais avoir le temps de la partie en tête à tête. Donc c'est un moment important. Et mon père lui-même avait appris de mon grand-père, donc de son père. C'est une sorte, ça me semblait un héritage familial, donc j'ai aussi enseigné à mes enfants.
Il y a une forme chez toi presque de psychanalyse du jeu d'échecs. Hein. Tu dis même que c'était une façon de régler ton Oedipe, peut-être avec ton père. Ça révèle quelque chose de nos personnalités aussi.
Quand on est un enfant, un petit garçon, a fortiori de 6 ans, et qu'on joue contre un adulte de 30 ans, en fait, on a autant de pièces l'un que de l'autre. Donc ça veut dire qu'on a autant de chances de gagner. Le fait que mon père était en plus très grand, et le fait qu'il soit une autorité, ça veut dire que dans tous les rapports, c'était disproportionné. Mais pas aux échecs. Et même quand je joue avec mon fils Benjamin, qui a 11 ans, je sais qu'il apprécie ce moment où il peut quelque part m'attaquer, il peut prendre des pièces et il peut me battre. Donc c'est un moment d'égalité. Donc lui aussi règle son Oedipe avec moi, comme j'ai réglé mon Oedipe avec mon père à travers les échecs.
Ouais, donc il y a un truc transgénérationnel quand même.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Tu as vécu d'ailleurs une expérience assez exceptionnelle puisque tu as joué contre l'ancien champion du monde, hein, Karpov, c'est ça, et son attitude était étrange. Tu as envie de nous raconter un peu ce qui s'est passé?
Alors déjà, il faut savoir, je savais avant de venir, que Karpov était un des dirigeants des services secrets du KGB. Et c'était, je crois que c'était il y a 5 ans, la Russie était l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris. Et pour l'occasion, ils avaient proposé à 12 personnes, auteurs ou champions, de jouer contre Karpov. Et donc, on était en U, en position de... On formait les 12, il y avait 3 tables. Et il arrivait devant nous, et nous, on devait jouer notre coup, et lui, il joue son coup. J'avais qu'un objectif, c'était ne pas être le premier à être éliminé, vu que je savais que tous les autres étaient très forts.
Toi, tu avais été sélectionné parce que tu avais déjà un niveau quand même?
Non, parce que j'étais écrivain.
Ouais.
C'était un mélange écrivain et bon niveau.
D'accord.
Moi, j'ai un niveau assez faible. Pour les gens qui connaissent, je suis 1200 Elo. Faut voir qu'un champion est au moins 2000 Elo. Voilà, donc je suis plus qu'un joueur amateur, mais moins qu'un joueur régulier, on va dire.
D'accord.
Et donc, il faisait le tour chaque fois des 12 joueurs. Et la deuxième directive que je m'étais fixée, c'est quoi qu'il arrive, sourire. Et c'est assez intéressant, parce que mon voisin, qui était Jean Becker, au fur et à mesure qu'il recevait le coup de Karpov, le recevait comme des blessures personnelles. Et je voyais qu'il suait, qu'il souffrait. Et d'ailleurs, la plupart des autres personnes autour de moi souffraient. C'est une réelle souffrance physique.
Ouais.
Comme si on avait en face de nous quelqu'un qui nous étrangle. Et lui, il était avec un côté de cruauté, de dureté. De l'extérieur, on voit juste des gens qui jouent aux échecs. Mais dans la réalité, ça se passe vraiment ailleurs. Et nous, on perçoit quelqu'un qui nous veut du mal, ou quelqu'un qui veut jouer, ou quelqu'un... C'est une forme de danse.
Oui.
On danse ensemble. D'ailleurs, je crois que les échecs, c'est l'un des meilleurs moyens de connaître quelqu'un. En tout cas...
C'est pour ça qu'on parle de psychanalyse des échecs.
Exactement.
Ouais.
Et là, je sentais un tueur. Quelqu'un, en plus... qui n'aime pas les autres, enfin Karpov, et quelqu'un qui est habitué déjà à faire beaucoup de mal autour de lui. Mais ça se sentait, le prédateur, le méchant des James Bond. Le tout,
On voit un peu la tête qu'il pourrait avoir, même si on ne voit pas sa tête en vrai.
Ouais. Il a une mèche comme ça, et le tout souriant et très sympathique dans sa conversation. D'ailleurs, il était avec sa femme, ils m'ont dit qu'il lisait mes livres. En Russie, parce qu'en Russie, mes livres marchent bien, donc il me connaissait. Donc, j'ai pas été le premier éliminé, ni le second. En fait, j'ai été le dernier. Et quand je m'en suis aperçu, parce qu'à un moment, vu qu'il faisait chaque fois le tour, à un moment, il joue, et au lieu de repartir pour faire le tour, il bouge plus, il se remet à rejouer. Je joue, il rejoue, je joue, il rejoue. Je dis, pourquoi il reste là? Et je regarde, et en fait, j'étais le seul. Et à ce moment-là, je me dis, par rapport à mon défi qui était resté le plus longtemps possible, j'avais réussi. Maintenant, l'idée même de le battre ne m'a même pas traversé l'esprit.
Ouais.
C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que j'ai gagné, c'est que je n'ai jamais voulu le battre. J'ai juste voulu tenir dans la longueur. Et l'autre petite anecdote, c'est qu'il joue extrêmement défense, c'est-à-dire qu'il ne déploie pas ses pièces. Donc dès que j'ai compris que sa stratégie consistait à ne pas avancer, j'ai arrêté d'avancer non plus, moi aussi.
Ouais.
Donc c'est-à-dire on s'est retrouvés tous les deux à faire 2 énormes lignes Maginot sans s'approcher. Et voilà, et ça a tenu ce que ça a tenu. Mais c'est un jeu en défense contre un jeu en défense.
Oui, c'est ça. Alors dans ton roman, tu dis que tout oppose Monica et Nicole, c'est dans leur vision du monde, ces deux fameuses héroïnes et leur rapport aux autres. Mais je me suis demandé si, au fond, ce n'était pas les revers d'une même médaille.
Oui.
Est-ce qu'elles ne se retrouvent pas finalement dans leur incapacité à aimer les gens, finalement, l'une comme l'autre? On est aussi dans un jeu de miroir, comme aux échecs, où l'autre me révèle et me révèle ma part
Exactement.
De lumière ou ma part d'ombre. Hein.
Tu as très bien résumé ça. C'est pour ça que je suis embêté d'en parler. J'ai l'impression que tu en parles mieux que moi. par moment. Non, c'est sérieux. Tu sais, par moment, tu ponds un œuf, comme une poule, et tu sais pas en fait quel goût ça a. C'est la personne qui va manger l'omelette qui sait exactement ce que vaut ton œuf. Donc c'est pour ça que je trouve c'est agréable d'entendre que tu as bien compris. Ce que je voulais démontrer là-dedans, c'est que nous avons tous une part d'ombre. Par moment, ça peut être un alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui quelque part Et notre ennemi, le livre commence par cette idée que nous avons tous un némésis, un adversaire. Quelqu'un qui nous veut du mal et auquel on veut du mal. Et qu'au bout d'un moment, cette personne va être notre meilleur professeur parce qu'en nous faisant découvrir notre capacité de lutte, elle va nous permettre de découvrir qui on est. Par exemple, dans la guerre des étoiles, Luke Skywalker existe parce qu'il y a Dark Vador.
Oui.
On enlève Dark Vador, Luke Skywalker, c'est juste un paysan qui fait des cultures sur sa planète, je crois que c'est Tatooine, et donc il n'y a aucun intérêt. Ce qui fait le héros, c'est le dragon, le chevalier héros. Ce qui fait une intrigue, c'est l'adversité. Donc là, les deux sont l'adversité l'une de l'autre. Les deux sont plus que femmes ennemies, elles sont complémentaires dans leur volonté de pouvoir et de destruction. Parce qu'il y a aussi une chose, maintenant avec le recul, puisque tu me parles de psychanalyse, c'est qu'au final, elles veulent le pouvoir, mais elles ne veulent pas être heureuses. Elles veulent le pouvoir. C'est-à-dire, pour elles, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de spiritualité. Même si par moments, Monique va, par exemple, elle va aller dans un vipassana, un endroit où elle va faire une sorte de résidence
de retraite
bouddhiste. Et en fait, même ça, pour elle, c'est du pouvoir sur son corps, son pouvoir sur les autres, son côté « je me maîtrise, les autres ne se maîtrisent pas ». Et c'est deux femmes de pouvoir. Dans l'arcane de tarot, puisque tu évoquais le tarot, c'est les impératrices.
C'est ça. Alors, il y en a une qui est anthropophobe et l'autre qui est autophobe. Alors, moi, je connaissais ni un terme ni l'autre. Et donc, on l'a un peu dit au début. Donc, celle qui est anthropophobe, qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? On imagine bien si on connaît
Anthropos, l'homme, comme l'anthropologie. Alors, en fait, ces mots, on les remplace souvent par misanthrope. Mais misanthrope, ça signifie pas la même chose. Anthropophobe, ça veut dire qu'on n'aime pas les autres êtres humains. Misanthrope, ça veut dire il y en a un, c'est juste une.
C'est plus lié peut-être à la condition humaine.
On n'aime pas les humains en général. L'autre, anthropophobe, on n'aime pas les avoir autour de soi.
Ouais, c'est ça, c'est la foule, quoi.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Et de même que pour ne pas aimer être seul, on dit agoraphobe. Enfin, ne pas supporter. Alors que c'est autophobe, c'est-à-dire on ne supporte pas de rester seul.
Ouais, c'est ça. Alors pour reprendre le mot d'une de tes protagonistes, il y en a une qui dit « je veux comprendre comment avance le troupeau humain » et c'est vraiment ce que tu as cherché à faire dans l'écriture de ce livre.
Oui.
Avec cette image des moutons, on peut manipuler des foules, ce qui peut conduire à une forme d'asservissement aussi, au totalitarisme. Est-ce que c'était une façon pour toi aussi de critiquer toute forme de dictature de par le monde, d'une certaine manière, et de montrer le pouvoir parfois d'un seul homme sur des foules?
Alors,
il y a plusieurs choses.
De ta question.
Oui.
Le mot dictature. L'un des problèmes des humains, c'est qu'en effet, on est des animaux sociaux et des animaux territoriaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sociaux, on se regroupe naturellement, et au bout d'un moment, dans le groupe, vu que c'est rapidement le bordel, on finit par désigner une administration, des chefs, et des rois, des empereurs, des pharaons. Et j'ai dit on finit parce que l'idéal serait qu'on n'ait pas besoin de rois, de chefs, d'empereurs. Or, moi j'ai vu ça par exemple en Russie, puisqu'on parlait de Karpov, les Russes ont une tradition de tsar. Le tsar, c'est en référence à César, donc l'empereur romain. Et pour eux, Poutine représente cette incarnation du chef charismatique, donc du berger. Chez les Chinois, c'est le timonier avec Mao Tse-tung. C'est des peuples qui, historiquement, quand ils avaient le choix entre des systèmes égalitaires ou des systèmes hiérarchisés, on choisit les systèmes hiérarchisés parce que ça les rassure. C'est la figure du berger, la figure du papa, la figure de l'autorité et aussi de l'ordre. Nous, en France, nous avons eu Napoléon. C'était quand même, ça suivait la Révolution qui était un grand chaos. Donc,
peut-être que d'ailleurs chez nous, on cherche aussi encore un roi, une figure de roi inconsciemment.
Évidemment. Et, tiens, c'est marrant. Tu me parlais de la Suisse, tu habites en Suisse.
Oui, absolument.
Ben, en Suisse, je suis incapable de te dire qui dirige le pays.
Oui.
Et je pense que c'est
ça
un
tourne
système,
tous les ans.
Voilà, c'est un système beaucoup plus dépersonnalisé.
Absolument.
Et le plus éloigné du concept de dictature. Mais en gros, il n'y a pas d'incarnation du pouvoir. Il n'y a pas le roi de Suisse.
Oui.
Il n'y a pas d'empereur de Suisse.
Ils disent d'ailleurs, la Confédération dit que.
Voilà.
Non, c'est pas la personne.
Voilà, c'est pas incarné. Et chez nous, Macron, malgré tout, rentre dans une logique qui est celle des Louis XIV, avant, on va dire Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, des grandes figures de leaders charismatiques, de type dictateur, mais dans lequel finalement les Français se reconnaissaient et pour lequel ils ont souvent de la nostalgie.
Oui, c'est ça. Alors, tu as fait quand même cette analyse des foules et tu parles aussi d'intelligence collective. Mmh. Est-ce qu'il existe justement cette intelligence propre au groupe, hein, et puis tu parles évidemment beaucoup aussi des animaux, bah, notamment avec les moutons. Et tu t'es intéressé à la psychologie des foules de Gustave Le Bon.
Oui.
Tu peux nous en parler ?
Ah, ça, c'est une vision des années 1800. Mais
oui.
Gustave Le Bon, déjà, s'est intéressé à la sagesse des foules, mmh. à l'idée de...
Avec cette idée d'égrégore aussi.
Voilà, que le groupe avait une sorte d'âme. Et ça a été poursuivi par toutes sortes de sociologues. Moi, je vous avouerai que quand j'étais en cours de droit, je m'ennuyais beaucoup.
Oui.
Mais le cours qui m'amusait, c'était la sociologie. Je ne sais pas si tu as fait aussi des études de droit ou...
Si, j'ai fait du droit. J'ai fait une année de droit. J'étais
et
qu'avec des gens qui avaient fait 4 ans de droit, qui s'étaient beaucoup ennuyés. Moi, j'en ai fait qu'une.
Mais
la cinquième.
Le cours sympa, c'est la sociologie.
Oui.
Tout d'un coup, il t'explique comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les groupes. Alors du coup, je suis allé beaucoup, enfin, pour écrire ce livre, sur Internet, sur des tutoriaux de sociologie, pour voir tout ce qui avait été fait sur justement les mouvements grégaires.
Oui, c'est ça.
Pourquoi on fait pareil que le voisin. Ça nous rassure de faire pareil que le voisin. Pourquoi les gens se mettent à hurler dans les matchs de foot et ils ont l'impression tout d'un coup d'exister. Pourquoi la guerre? Pourquoi autant de gens tout d'un coup se disent « Ah les gars, si on est tous en groupe, péter la gueule aux voisins en face ?» Donc toutes ces choses-là m'ont toujours semblé des thèmes passionnants.
Oui, d'ailleurs, Freud s'en est aussi inspiré. Hein. Il était, je crois, admirateur de Gustave Le Bon, c'est ce que tu dis. Mmh. Et dans cette idée aussi qu'une foule, comme tu viens de le dire, sert à vraiment déverrouiller l'inconscient. Et moi, j'ai vraiment aimé que tu le dises noir sur blanc, et ça m'a fait un effet miroir aussi sur moi-même, ce que peut me faire une foule. Parce que souvent, on n'y pense pas forcément automatiquement. Quand on est à un concert, tu prends cet exemple, tout le monde se met à chanter à l'unisson, et,
voilà.
et le chant se corrige même automatiquement, c'est ça ?
Oui, on s'est aperçu que plus il y a de gens qui chantent en même temps, plus ils chantent juste, tout simplement parce qu'entre ceux qui chantent trop aigus et ceux qui chantent trop graves, ça se compense. Ceux qui chantent trop vite et trop lentement, ça se compense. Et finalement, ils trouvent un niveau médian qui est parfait. Et on le voit sur une vidéo qu'il y a sur YouTube où il y a 100 000 personnes qui chantent Bohemian Rhapsody et qui chantent tous exactement à l'unisson avec les bonnes paroles jusqu'au bout, le morceau entier, tout seul, c'est-à-dire la foule, toute seule, sans aucun support. Et c'est ça la sagesse des foules. Il y a des moments où la foule peut faire des choses que des individus isolés n'arrivent pas à faire.
On pourrait dire aussi qu'effectivement, l'union fait la force, c'est ce qui a permis aussi la survie de l'espèce, certainement, le collectif.
Ben, oui, il faudrait imaginer comment serait l'humanité si nous étions des animaux indépendants et autonomes. Je pense que, certes, nous n'aurions pas de guerre, nous aurions que des combats d'individu à individu, mais nous n'aurions pas fait toutes ces inventions, toutes ces cités, ces grandes cités, toute cette culture, toutes ces guerres, mais aussi toutes ces monuments, toutes ces merveilles. Mon ami Émile Servan-Schreiber dit qu'un pays qui n'a pas beaucoup de population ne peut pas avoir beaucoup d'innovation. Les deux sont vraiment liés. Plus il y a de gens, plus il y a de chances qu'il y a des gens qui trouvent des idées.
C'est l'idée du mastermind, quoi, du collectif, du cerveau. Nombre de cerveaux réunis. En Suisse, il n'y a pas énormément d'innovation, par exemple. Il y en a sur certains plans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... En même temps, si on prend les Belges, on a beaucoup d'acteurs, de chanteurs, etc., qui viennent de ce petit pays.
Parce que les Belges ont connu beaucoup de guerres et les Suisses n'ont pas connu beaucoup de guerres. Mmh. Et les Belges sont remués de conflits internes entre notamment les Flamands et les Wallons. Et visiblement, la Fédération Suisse est arrivée à résoudre ces problèmes. Même s'il y a, je pense, un petit côté hautain entre les ceux qui parlent allemand, ceux qui parlent italien et ceux qui parlent français. Enfin, il y a des rapports de... Mmh.
Comment dire, des tensions, pourrait
des
dire.
Des tensions, oui. Ouais, du mépris, je crois.
Mais ceux qui parlent le romanche, la quatrième langue.
Ça reste pas... Ça va pas aussi loin. C'est-à-dire, c'est un pays qui a quelque part réussi une forme de tranquillité, ce qui fait qu'ils attirent les finances du monde entier. Alors que les Belges n'ont pas cette tranquillité, ils ont un petit côté fantastique. Mais c'est un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet. Alors c'est vrai que sur le collectif, quand même, j'ai eu le sentiment que tu posais aussi, hein, évidemment, en trame de fond, cette question de la désobéissance civile. Parce que, obéir, oui, mais jusqu'à quel point, en fait, on suit la foule, on suit cette idée du collectif.
Alors, j'ai pas de réponse claire. C'est-à-dire, mon principe est de poser des questions. Je vous avouerai... Je t'avouerai, même par moment, je me dis que c'est Monique qui a raison, et par moment, je me dis que c'est Nicole qui a raison, parce que j'ai quand même l'exemple des fourmis, qui est un système collectif qui marche. Ta question, c'était...
Oui, sur la désobéissance civile. Jusqu'à quel point, en fait, on est embarqué, on est embrigadé, ou on s'embarque dans un mouvement collectif?
Je crois qu'il y a des réponses... par individu et par époque, qui sont différents. Je vais te raconter quelque chose qui m'avait donné beaucoup à réfléchir. Il y avait un type qui avait fait un film, je crois que ça s'appelait Turbo, un nom comme ça, je ne me rappelle plus, qui avait fait Johnny Got His Gun, qui était un... Tu vois ce que c'est, ce film?
Oui, je ne l'ai pas vu.
Turbo, un nom comme ça.
Oui.
Et ce film, c'était pour dénoncer l'horreur de la guerre de 14-18. C'est un type, justement, qui perd tous ses sens et qui perd aussi ses bras et ses jambes et qui se retrouve à servir d'expérience parce que c'est... Voilà. Et en gros, c'était une dénonciation de la guerre de 14-18 et c'était pour alimenter le mouvement pacifiste. Et là-dessus arrive la montée au pouvoir d'Hitler, arrivent les premiers camps de concentration, tous les éléments qu'aux États-Unis ils connaissaient, même si tout le monde se demandait, c'est sûr. Au final, les infos arrivaient. Et puis, ce réalisateur a dit, mais attendez, il faut faire quelque chose, il faut pas laisser faire ce qui est en train de se passer là. Mais il avait tellement dénoncé la guerre... que tout le monde lui a dit, attendez, votre film, vous expliquez bien que la guerre, c'est une horreur, faut pas y aller. Il fait, oui, mais là, il faut arrêter ce dictateur qui va faire une guerre encore plus grande, et plus personne ne l'écoutait. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a un moment où le collectif et même la guerre, c'est affreux, il faut lutter contre ça, mais il y a un moment où, heureusement qu'il y a le collectif et la guerre, c'est ce qui a permis aux États-Unis, quelque part, de nous libérer de l'emprise d'Hitler. Oui. Sinon, on serait dans un système encore bien pire.
Oui.
Donc, il n'y a pas de généralité. Ce que je disais, c'est que par moment, je suis de l'avis de Monique, par moment, je suis de l'avis de Nicole.
Oui, on oscille entre les deux, hein, dans le roman.
En tout cas, la vision communiste, qui est tout le monde à égalité, tout le monde un collectif, et on s'en fout de l'individu, est une vision qui m'a l'air créer un enfer. Et la vision chacun pour sa gueule et on essaie d'écraser l'autre.
L'hypercapitalisme
m'a l'air aussi un enfer. Donc là encore, la solution se trouve dans un juste milieu adapté aux circonstances, à l'époque, au lieu. Et par moment, il faut tous se regrouper et prendre des armes et faire la guerre.
Oui.
Et par moment, il faut essayer de faire la paix. D'ailleurs, sur la Deuxième Guerre mondiale, si la France s'est fait envahir aussi facilement, c'est parce qu'il y avait des mouvements pacifistes qui avaient demandé le désarmement. Donc les Allemands arrivaient avec du matériel complètement neuf qu'ils avaient mis au point, plus des armées extrêmement entraînées qu'ils avaient mis au point pendant que nous, on était en train de faire, et la Société des Nations, de parler de la paix mondiale et du désarmement planétaire, de très belles idées, mais qui ont entraîné encore plus de malheurs.
C'est vrai que tu poses aussi cette question du pouvoir du leader, du berger, des chamans, quel que soit son nom, du leader, de celui qui réunit le troupeau. Et ça pose question sur ces individus, effectivement, qui sont à la fois des rayons. Il y a beaucoup de biographes, hein. Je pense à Nancy Houston, avec la biographie de Pol Pot, par exemple, ou Irving Yalom, en psychiatrie, qui s'est intéressé à la biographie d'Hitler, par exemple, sous forme aussi de roman. Et qui sont des personnes qui sont éminemment intrigantes au niveau de la psyché humaine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils hypnotisent, toi qui es vraiment le roi aussi, des rois de l'hypnose.
Non, parce je ne suis que pas roi, fais... non, je suis juste apprenti.
Tu es apprenti, mais tu fais pas mal de recherches, en tout cas, ces expériences
te passionnent. Ça m'intéresse, mais...
Et on se demande comment, finalement, ils peuvent... comme ça, hypnotiser les foules. Hein. On disait qu'Hitler, avec ses mains, par exemple, il hypnotisait beaucoup les gens.
Il avait travaillé avec des profs de théâtre. Hein. C'est-à-dire que il n'est pas arrivé non plus par hasard. Et puis, il cristallisait l'égrégore nationaliste allemand, qui, à l'époque, était extrêmement fort. Parce qu'il y avait la revanche de 14-18. C'est un enchaînement de malheurs qui entraîne des catastrophes. Et c'est quand même tellement de morts dans des circonstances tellement atroces. Tout ce collectif effervescent a abouti à du malheur. Donc il y a un moment, il faut se demander à quel moment on peut arrêter ça. Mais même ce qui se passe actuellement en Ukraine, d'abord, c'est toujours pas fini au moment où nous faisons cette interview. Et deux, je vois très bien comment ça pourrait s'emballer pour devenir bien pire. Et il suffit aussi de voir ce qui se passe en Chine. En Chine, là, il y a actuellement la réunion Xi Jinping de tout le comité central. On a affaire à des systèmes avec des leaders charismatiques qui s'appuient sur l'armée, qui sont dans la peur, qui sont dans le contrôle de la population, qui sont dans l'arrêt de la liberté des médias et de la presse. Et on va devoir à un moment gérer ça. Je sais pas, est-ce que nous, nos démocraties dans lesquelles on communique, dans lesquelles on a encore des libertés et tout, nous pouvons continuer à rester démocratiques face à des dictatures. Surtout quand nous sommes 200 millions, 300 millions pour l'Europe, alors que, par exemple, en Chine, ils sont 1,7 milliard. On fait pas le poids. Voilà. J'espère que nous ne serons pas débordés par ces chefs guerriers au discours simple, donc très populaire.
Alors c'est vrai que là on parle des égrégores de la guerre, mais il y a aussi des égrégores avec des leaders de la paix. Évidemment, il y a toujours ces deux polarités, puisqu'on est incarné dans la dualité. Et donc il y a aussi des leaders, on pense toujours eux-mêmes, hein, on ne va pas les renommer, Mandela, etc., qui forment aussi des formes d'égrégores pacifistes.
Oui, mais les égrégores pacifistes sont moins solides que les égrégores militaires.
Ouais. Ce que tu disais aussi avec le désarmement, là, tout à l'heure.
Ouais, il y a... Même Gandhi, au moment de sa mort, quelque temps avant sa mort, a dit « j'ai échoué ». J'ai échoué, pourquoi ? Parce qu'il espérait que le Pakistan joue le jeu et renonce à faire... C'est-à-dire que le Pakistan, qui est un pays musulman, dans lequel c'est allé tout le pouvoir de tous les musulmans indiens, renonce à attaquer l'Inde, qui était en train de devenir majoritairement bouddhiste. Et puis, il y a eu tous les problèmes avec le Cachemire, à savoir... Et puis, il y a eu des groupes armés musulmans qui ont attaqué et massacré des villages bouddhistes. Et chaque fois, Gandhi disait « Nous ne vengeons pas, ne tombons pas dans la colère, ils veulent que nous rentrions là. » Mais les types avaient de plus en plus de morts, et dans des circonstances affreuses. Et c'est pour ça que Gandhi, au final, en effet, il a lancé le mouvement non-violent. En effet, il a lancé ce message-là. Mais ce qu'il a vu, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit groupe qui ne le respecte pas, et tout est foutu en l'air, et ceux qui sont non-violents se font casser la figure par ceux qui sont violents.
Oui, et en même temps, il y a quand même aussi cette idée qu'un seul individu peut faire la différence. Il y en a d'autres dans l'histoire, pas forcément dans des mouvements de guerre. On pense à... Toi, tu cites aussi Archimède, etc., qui ont... Là, on n'est plus dans des mouvements de foule, mais qui ont proposé...
Participer à l'élévation de la conscience humaine. Oui. Même Léonard de Vinci, pour le cas. Même Descartes. Pour moi, le premier qui a qui a fait monter la conscience humaine.
On pense à Galilée aussi.
Oh, bien avant, c'est Pythagore.
Pythagore, ah oui, Pythagore, que tu aimes
500,
beaucoup, toi. Ouais.
Moins 500 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a inventé la gamme musicale, c'est lui qui a inventé le mot philosophie, le mot mathématique, c'est lui qui a développé le concept de métempsychose dans la réincarnation, le végétarisme. C'est lui aussi. À l'époque, végétarien, jusqu'au Moyen-Âge, on disait pythagoricien pour parler des végétariens.
Ah oui.
Oui, c'est vraiment un Pythagore, sans parler bon, de toutes ses découvertes en mathématiques, mais en astronomie. C'est le premier qui a dit que la Terre était ronde et tournée autour du Soleil. C'est Pythagore, pour moi, c'est le premier message de lumière posé. Et après, c'est ses élèves qui n'ont pas arrêté de diffuser. Et Socrate et Platon étaient des élèves d'élèves de Pythagore. Hippocrate. On se rend pas compte comme cette étincelle de lumière apparue en moins 500 avant Jésus-Christ avec Pythagore continue de nous inonder par des moyens détournés, par moment par des groupes comme la franc-maçonnerie, par moment par des groupes de philosophes, par des courants de... justement, tout à l'heure, j'évoquais le végétarisme, toutes ces choses-là, la non-violence contre les animaux aussi, c'est passionnant.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, toi, tu en es aussi la preuve vivante, c'est-à-dire que tu as une œuvre littéraire qui a une certaine influence et qui, c'est un individu qui, effectivement, porte une parole auprès du collectif. On pourrait dire aussi ça de toi, finalement, en effet miroir.
J'essaye de... Je crois qu'il y a eu longtemps l'aventure de l'intelligence, maintenant c'est l'aventure de la conscience. Maintenant j'essaie déjà, moi, à mon niveau, de devenir plus conscient. Donc c'est pour ça que je fais des expériences avec l'hypnose, avec les régressions à les vies antérieures, avec la méditation. J'essaie déjà, moi, de m'améliorer et de proposer des moyens de réflexion pour mes lecteurs. Maintenant, je peux pas aller plus vite que la chanson, c'est-à-dire je peux pas aller plus vite que le troupeau humain n'avance. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers la lumière. Quand je parle maintenant d'hypnose ou de régression à les vies antérieures ou de méditation, les gens me prennent plus pour un allumé ou pour un bouddhiste ou un mystique. Ils comprennent que c'est juste, ça consiste à maîtriser sa pensée et puis à essayer d'explorer toutes les possibilités de son cerveau.
Ça montre quand même qu'il y a un temps pour la pensée, effectivement. Que quand le temps d'une idée n'est pas venu, c'est compliqué.
Exactement, je trouve cette période passionnante. Oui. Jamais il y a eu autant de dangers, jamais il y a eu autant d'espoir, jamais il y a eu autant d'outils pour aller de l'avant, et jamais il y a eu autant de gens qui donnent un mal fou pour revenir à des temps obscurs. Donc les enjeux sont énormes. Et toi aussi, à ton niveau, tu diffuses en faisant venir des gens ici, tu diffuses de la lumière. Et après, chacun selon son propre trajet, son propre passé, ses propres peurs, ses propres colères, avance en avant. Avance, je veux dire, sur son chemin de lumière. Mais en gros, je vois trois... On a tous des projets différents d'âme. J'aime bien cette idée qu'on est venu là pour évoluer. Et donc notre âme a choisi, mon âme a choisi de s'incarner en Bernard Werber pour faire l'expérience d'écrire des livres qui soient diffusés. Voilà, peut-être. C'est comme ça que j'imagine. Donc ton âme a peut-être choisi de t'incarner à Anne pour permettre à des gens de diffuser aussi.
D'opérer de la métamorphose intérieure.
Exactement. Chacun, on a une trajectoire différente. Maintenant, le seul danger, c'est de ne pas avancer. De ne pas être curieux, ou de se contenter de sa vie, ou de se dire, tiens, telle personne a raison, donc je ne vais faire qu'écouter cette personne.
Ah oui, d'être monomaniaque d'une pensée.
Feignant. Ouais. Déjà, tout le système...
Tu trouves que c'est...
Attends, quand t'es petit, on dit, obéis à tes parents. Donc ça veut dire, ne réfléchis pas par toi-même, obéis à tes parents. Après, tu vas à l'école, on te dit de répéter la rédaction par cœur. Donc on te demande pas d'écrire, on te demande de répéter quelque chose qui a été fait par un autre par cœur. Après, en entreprise, on te dit, fais ton boulot, arrive à l'heure et discute pas. Donc, à aucun moment, la personne va, avec des stimuli comme ça, pouvoir découvrir qui elle est, réfléchir par elle-même. Donc, à ce moment-là, c'est les livres, c'est les émissions, c'est les podcasts qui vont faire que les gens vont se dire « Ok, mais c'est quoi exactement ce que je veux ? Qui suis-je ? C'est quoi ma trajectoire personnelle? Et c'est quoi mes objectifs? Et en quoi puis-je rayonner?
Alors, à un moment, il y a ton personnage qui dit « Dans la vie, il n'y a que deux sortes de gens, les innovants créatifs et les suiveurs passifs. » C'est ce que tu viens un peu dire, les feignants. C'est comme aux échecs ou dans le grand échiquier du jeu de la vie. Est-ce qu'on a un rôle? Est-ce qu'on est un pion? Et on a du mal quand même à sortir de ce rôle. Est-ce que ceux qui sont passifs ont peut-être des empêchements à devenir actifs?
Il faut étudier un peu au cas par cas, parce qu'il y en a qui ont des enfances traumatisées. Oui. C'est pas facile de dire à l'autre, sois libre, exprime-toi et fais rayonner ton cœur, alors que tu t'es pris des beignes toute ta vie, ou que tu as été blessé, ou que tu as vécu dans des milieux dans lesquels tu n'as pas pu découvrir les outils de la culture, par exemple. Mmh. Donc c'est pour ça que je ne juge pas les gens. Je dis juste, on n'avance pas tous à la même vitesse. Et il y en a qui ont besoin de l'expérience de la douleur ou de la souffrance pour comprendre des choses. J'aimerais bien qu'il y ait cette idée, mais je suis pas sûr qu'elle existe, que on a tous ce qu'on mérite. Et on a tous les outils dont on a besoin au moment où on a besoin. Maintenant, je sais pas sûr, quand vous naissez enfant et malade, comme le cas de mon ami Gilles qui naît sans bras et sans jambes, est-ce que c'est ça qu'il méritait? Est-ce que c'est quoi le sens de cette vie? Il y a des vies qui peuvent sembler injustes. Maintenant, j'ai l'impression que la plupart des vies ont des épreuves surmontables. Je sais que ça peut paraître terrible pour les gens qui reçoivent un cancer et tout, mais déjà se demander, quel sens ça a? Est-ce que ça, même cette terrible épreuve, n'est pas là pour me faire avancer?
Certains le disent, hein, je me souviens de Bernard Giraudot, même avant sa mort, qui disait que le cancer, finalement, bon, ça finit pas par l'emporter, mais il dit que il avait compris finalement beaucoup de choses de la vie, certainement il serait passé à côté de certaines choses s'il n'avait pas eu cette maladie. Donc c'est très fort chez certaines personnes, ce retournement intérieur que ça provoque.
Ben, c'est un peu ce qui est malheureux, c'est que la souffrance et les épreuves, c'est la meilleure manière de se remettre en question et de changer. Quand tout va bien, on se pose pas de questions et on continue de reproduire un système. Or, notre système, là, actuellement, il est pas très sain. Donc, il faut que ça change. J'ai l'impression qu'on arrive à une époque où il y a une accélération. Tu parlais dans l'émission, ça s'appelle Métamorphose. Il y a une accélération du phénomène de chenille qui est en train de bouger.
C'est ça.
Et est-ce qu'il va sortir un papillon? Je l'espère. Je fais tout pour qu'il sorte un papillon. Mais ça se peut aussi que ça tue la chenille. Et dans ce cas, l'humanité aura été une expérience temporaire. Ce qu'on voit, par exemple, avec ce président de Corée du Nord qui s'amuse avec des missiles nucléaires, c'est quand même quelqu'un qui est un peu bizarre.
Il suffirait qu'il... le mot est assez tendre.
Là, je le visualisais avec sa mèche et ses discours et ses foules qui sont devant lui.
Toi qui as tant de succès en Corée du Sud,
ah ouais,
son
surtout
voisin.
Surtout qu'ils sont tellement adorables en Corée du Sud, ils sont tellement dans l'obscurantisme en Corée du Nord. Mais avec le nucléaire, vous savez, il y a quand même eu cette histoire, les gens l'ont oublié, il s'appelait Tsar Bomba. À un moment, Staline a voulu montrer qu'il avait des moyens de faire une bombe atomique plus puissante que les Américains. Et c'est... comment il s'appelle ? Celui qui a eu le prix Nobel, le physicien qui a eu le prix Nobel de...
Caspé ?
Non, pas Caspé.
De physique ?
Ouais, de physique.
Qui vient de le recevoir, là ?
Non, il y a longtemps.
Ah oui, parce que là, c'est
Alain... Non, il y a 20 ans.
Alain Caspé, quelque chose comme ça.
Et il avait fabriqué une bombe atomique qui s'appelait la Tsar Bomba, donc la grande bombe. Et ils avaient mis dedans tellement de matière fissible que ça devait faire détruire entièrement une île dans le nord. Et à un moment, ils se sont demandé est-ce qu'on n'en a pas mis trop. Et ils ont enlevé les deux tiers de matière de cette bombe atomique. Et quand ça a pété 10 fois plus que ce qu'ils estimaient. Et ils se sont aperçus que Sakharov, voilà, oui. Le nom.
Le temps vient de revenir.
Donc c'est Sakharov qui avait mis au point cette bombe atomique, prix Nobel de la paix quand même, Sakharov, ou prix Nobel de physique. Et ils ont enlevé les deux tiers, et ils se sont dit, si on avait laissé les deux tiers, il serait peut-être détruit entièrement la planète. Donc on est peut-être passé de très très peu, sans le savoir, parce que tout ça s'est passé, ça n'a pas été médiatisé, ça a dû arriver dans les années 60. On est passé à côté de la destruction de la planète, ça s'est joué juste à un type qui fait « Oh, attendez, on va peut-être en enlever un peu. »
Quand même, on va peut-être en enlever un peu, quoi. Et là, tu fais « Oups !»
Ouais. Mais bon, c'est-à-dire que tous ces films de science-fiction dans lesquels on est dans une apocalypse, on a l'impression que ça n'arrivera pas. Moi, j'ai l'impression que si.
Ouais, on est souvent proche de la réalité. D'ailleurs, à un moment donné, t'as un personnage qui se demande si un de tes personnages, je crois que c'est Monica,
ouais,
qui se demande aussi si être intelligent ou réfléchir beaucoup est une malédiction, parce qu'on a justement cette prise de conscience de la tragédie de l'existence, et l'exemple que tu viens de donner, c'est exactement ça.
Ah ouais. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Les optimistes sont des gens mal informés. » Mais pourtant, je suis optimiste, mais optimiste sur le long terme. Je pense que malgré toutes les épreuves et malgré tous les dangers, il y aura toujours un petit groupe de gens, peut-être ceux qui écoutent Métamorphose ou ceux qui lisent mes livres, qui se diront « Bon, attends, on va essayer de refaire quelque chose de mieux maintenant que
on est allé au bout de nos horaires. » Faudrait que je change le nom, que je passe au papillon, moi. Parce que si on reste dans la métamorphose, il faut qu'on sorte, tu l'as dit tout à l'heure.
Butterfly Club.
Ouais, c'est ça. On crée un club d'échecs. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Tu abordes aussi la question, évidemment, quand on a parlé des égrégores tout à l'heure, de la noosphère. J'avais reçu Patrice Van Hersel dans ce podcast.
Oui, j'adore.
Ouais, moi aussi, c'était un livre remarquable. Et puis, le projet Webbot sur ses prédictions là, du collectif, justement, puisque tu parles du long terme.
Voilà. Tu veux que je t'en parle?
Ah oui.
Maintenant,
tout le monde ne sait pas ce que c'est que la noosphère, peut-être déjà un peu.
Alors, la noosphère, c'est une notion qui a été lancée par un monsieur qui s'appelle Velinsky avec Teilhard de Chardin. Il y a un Français et un Russe. Et l'idée, c'est que les esprits, par exemple, durant le sommet, les esprits, tous les rêves des hommes se réunissent pour former une sorte de nuage qui serait une sorte d'ensemble qu'il appelle la noosphère. L'égrégore, le troupeau de tous les esprits humains réunis dans
c'est
un...
C'est ça, comme une pensée groupe.
Une pensée collective, mais isolée des individus, simples individus. Je visualise comme un nuage de pensées, qui sont les pensées de tous les humains qui réfléchissent en même temps. Et Teilhard de Chardin, qui était vraiment un esprit extraordinaire, disait que les artistes, quand ils dorment, se connectent à la noosphère et trouvent l'inspiration, ce qui fait que ou les inventeurs, ce qui fait que par moments des idées apparaissent dans plusieurs endroits de la planète en même temps, notamment il semble que le feu ou le tissage soient apparus simultanément dans plusieurs endroits de la planète.
Ouais, d'ailleurs on dit toujours les idées sont dans l'air du temps.
Voilà.
Donc,
exactement,
la conscience populaire a conscience de ça, sans
mais
le
les
vraiment
idées
les nommer.
Sont dans l'air de la noosphère.
Ouais. C'est ça. Certains les appellent peut-être aussi les annales akashiques dans des visions peut-être plus spirituelles, mais on ne rentrera pas forcément là-dedans. Et donc ce webbot-là, qu'est-ce que ce projet
J'ai découvert ça en écrivant le roman. C'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va voir tout ce qu'on raconte sur Internet et on va en sortir la synthèse et on va regarder qu'est-ce que ça raconte. Et il y a plusieurs crises, dont notamment des tremblements de terre, il y a le World Trade Center, enfin, ils avaient prévu qu'il allait y avoir une crise politique forte. Et à partir de là, l'idée du Webbot, c'est que le groupe sent les catastrophes qui vont venir, et on peut le voir sur Internet, il suffit juste d'analyser.
Ouais, c'est ça. Alors, jouer aux échecs, on arrive à la fin de ce podcast. Bernard, c'est sans cesse être projeté dans le coup d'après. Quel pourrait être le monde des décennies à venir, toi qui es joueur? Et très imaginatif. En plus des joueurs, quand même.
Écoute, là, objectivement, j'ai jamais vu des gens devenir raisonnables d'un coup. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans l'armement et qui doit être rentabilisé. Donc je crois qu'on va avoir des guerres encore pour un petit moment. Et ça semble aussi un moyen en même temps de faire tourner l'industrie et de défouler les gens. Jusque-là, il y avait le football qui suffisait. Maintenant, il semble que la guerre soit l'étape suivante. Donc je pense qu'on va aller dans une période dure. Et qu'au bout de cette période dure, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se dire « Bon, ok, on peut pas continuer comme ça, donc il faut trouver autre chose. » Et c'est après être descendu au plus bas qu'on va remonter. Je pense que le monde évolue en cycles, des cycles de violence qui alternent avec des signes de progrès, avec des cycles de progrès. Après 14-18, il y a eu la Société des Nations qui s'est avérée complètement inefficace pour créer la paix mondiale. Après, vu que la Deuxième Guerre mondiale était plus meurtrière que la Première, il y a eu l'ONU qui commence à avoir un peu de puissance. Peut-être qu'il faut une Troisième Guerre mondiale pour avoir un ONU vraiment efficace. Mais l'une des clés du problème, vu que là, je crois que c'est aujourd'hui qu'on a passé le cap des 8 milliards d'individus sur Terre, enfin 8 milliards officiels, l'une des clés du problème, c'est l'autorégulation de l'espèce. Je pense que plus on sera nombreux, plus il y aura de problèmes, juste du fait de la quantité.
Tu dis aussi, et on en a un peu déjà parlé au début de l'interview, que le fait d'avoir un adversaire peut aussi, et c'était un des thèmes du roman, hein, c'est un moment où tu fais dire ça au commandant Massoud, le vrai commandant Massoud, parce que tu t'inspires de la réalité, hein, des vrais personnages. Donc c'est pas un autre commandant Massoud, c'est bien celui-là, que finalement l'adversité nous révèle aussi. Elle révèle notre conscience et nos choix.
Ben, ça montre aussi ceux qui sont courageux, ceux qui sont lâches, ou ceux qui collaborent avec les dictatures parce que finalement c'est le plus confortable. La Deuxième Guerre mondiale a révélé plein de héros et plein de salauds. Voilà, par moment, tu disais que c'est un choix.
Ben, je disais en fait que ouais, l'adversité, je dirais que s'il y a quelque chose peut-être de bon dans l'adversité, c'est qu'elle révèle, comme tu dis, quand on sera bien descendu aussi dans notre rond, peut-être qu'à ce moment-là, une espèce de conscience autre va s'élever.
C'est toujours ces cycles. Il faut l'hiver pour que le printemps apparaisse. Il faut descendre au fond des égouts pour se dire qu'il vaut mieux monter vers la lumière et l'air pur. Dans nos propres vies, chacun, nous connaissons des cycles. Je pense que et toi et moi, Anne, nous sommes retrouvés dans des moments où on s'est dit « Là, je crois que vraiment tout est foutu, je m'en sortirai jamais. » Et puis, on a quand même trouvé une solution. Et il y a eu des moments où on se demandait pourquoi tout semble nous empêcher d'avancer, alors qu'on a tout fait comme ça nous semblait correct. Tout ça fait partie d'un cheminement. Moi, à la limite, quand j'ai ma maladie, spondylarthrite ankylosante,
je pense exactement à ça.
Ben voilà, a priori, j'avais tiré la mauvaise carte, et puis j'avais plus qu'à préparer à vivre une vie d'handicapé. Et puis maintenant, avec le recul, je considère que ça faisait partie de mon chemin, et j'accepte cette maladie comme une, non plus comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais comme une motivation pour aller vite avant que ça me tombe dessus et que les crises deviennent difficiles à gérer.
Et tu l'as partagé avec beaucoup de... C'était vraiment puissant dans ton précédent ouvrage sur ton autobiographie, sur au moment où l'écriture arrive dans ta vie, cette maladie disparaît en fait, ou presque.
Je crois qu'il faut se forcer à être heureux, ne serait-ce que pour des raisons thérapeutiques. Donc c'est vers 30 ans, quand j'ai eu la sortie des fourmis, j'étais tellement heureux que le livre marche et que ça devienne mon métier, qu'en effet, mon corps a dû comprendre, attends, maintenant, on n'est plus dans une phase de malheur, on va passer une phase de bonheur. Donc mon corps s'est reprogrammé et j'ai arrêté d'avoir des crises. Je crois qu'il faut se forcer à être heureux, forcer de sourire, forcer de prendre tout du bon côté, forcer à être optimiste, même si, comme je disais tout à l'heure, les optimistes sont des gens mal informés. Tant pis, on se dit, il y aura toujours une solution, ne serait-ce que pour ne pas faire des ulcères à l'estomac, ne pas avoir des migraines,
ne pas sombrer.
Ne pas se laisser porter par une vision négative. Il y a un moment, c'est que des lunettes. Est-ce qu'on a des lunettes qui amplifient la lumière ou des lunettes qui éteignent la lumière, des lunettes de soleil qui font qu'on voit tout noir. Moi, j'ai essayé malgré tout de donner envie à mes lecteurs d'aller vers la lumière, même s'il y a des épreuves.
C'est ça. Alors l'individu, le collectif de Nicole Oudmonica, qui remportera cette partie d'échec haletante qui revient sur plus de 80 années de l'histoire du monde. À vous maintenant, chers auditeurs, de découvrir si vous sentez plus proche des convictions de l'une ou de l'autre des protagonistes. Vous pourriez certainement être surpris. Merci Bernard Werber d'être venu nous parler de cette Diagonale des Reines parue tout juste chez Albin Michel. Merci.
Merci Métamorphose, merci Anne.
Avec joie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriat qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose ? Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie, amour, spiritualité, famille, abondance, psychologie, santé et bien-être, pour n'en nommer que quelques-uns. En moins de 10 minutes, engagez-vous dans ce voyage introspectif et recevez à l'issue un rapport détaillé sur votre propre métamorphose, accompagné d'une sélection personnalisée de podcasts. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.